Vous écoutez RTL. C'est l'été.
C'est l'été.
Laissez-vous tenter sur RTL.
Avec vous, Anthony Martin, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et bonjour à toute l'équipe.
Bonjour. Bonjour.
Et on retrouve avec joie, il y a de la voix, notre saga musicale de l'été avec vous, Steven Bellery. À qui le tour ?
On a souvent dit qu'elle n'en avait pas, et ben on va en parler. Carla Bruni.
Depuis maintenant 4 semaines, Bernard Lehune nous suggère une idée de lecture par jour. Aujourd'hui, Bernard, un coup de cœur de la saison.
L'affaire Meyerling de Bernard Quirini, rien à voir avec la grande histoire. Hein. C'est l'enfer immobilier qui tourne à la farce.
Au programme également, notre rendez-vous ciné de l'été, secret de producteur dans les coulisses du tournage de films à succès à l'affiche, Stéphane Boutsock.
Si je vous dis pas de bras, pas de chocolat.
Intouchable.
Voilà, gagné.
Et j'ajouterai un duo sorti de notre jukebox et une pépite trouvée dans l'album Souvenir de nos belles rencontres.
Laissez-vous tenter tout l'été avec Anthony Martin sur RTL.
Et donc à cette heure-ci, il y a de la voix sur RTL et c'est au tour de Carla Bruni de se confier, Steven.
Elle vient tout juste de terminer sa tournée, elle parcourait le monde avec ses très jolies reprises extraites de l'album French Touch paru à l'automne dernier. Depuis le triomphe de Quelqu'un m'a dit en 2002, l'ancienne mannequin star a su imposer son timbre si particulier. Il y a de la voix aujourd'hui avec Carla Bruni.
En fait, j'ai un petit peu la même voix que ma sœur, Valeria, et une voix assez commune en Italie parce que c'est une voix un peu voilée. Et j'ai jamais vraiment réalisé quand j'étais petite. Je me rendais compte que j'avais la voix plus rauque que mes camarades, mais ouais, je chantais tout le temps.
Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille.
Un jour, j'ai fait une émission de télévision et puis j'ai fait des chœurs dans cette émission de télévision pour les Restos du cœur. Le garçon qui remixait cette émission, qui s'appelle Guy Delacroix, m'a dit qu'il trouvait quand même ma voix très particulière parce que bien qu'elle soit pas très puissante, elle se mélangeait pas tellement avec les autres. Donc c'est peut-être ce jour-là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une identité vocale.
Voilà. Ça veut dire que cette prise de conscience arrive quand vous êtes adulte ?
Oui, assez adulte.
Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse. Je suis ton amoureuse.
Je cherchais quelque chose de relié à l'expression et à la puissance que je n'avais pas, donc je pensais que je pourrais pas chanter en fait. C'est l'écriture qui m'a poussée à chanter, mais j'ai par exemple les chansons de mon dernier album qui sont des reprises, je les chantais toutes depuis longtemps. Et je savais pas si je donnais de l'émotion, mais j'en ressentais, c'est sûr.
The winner takes it all, the loser has to fall.
J'ai pris des cours de chant pas du tout ado, mais à partir de l'âge adulte de 25 ans jusqu'à aujourd'hui, j'en prends, oui, 2-3 fois par semaine.
Donc vous prenez encore des cours de chant?
Ah oui, 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 oui. Oui, j'en prendrai sans doute jusqu'à la mort.
Est-ce que vous avez des voix repères? Quelles sont les voix qui vous ont ému?
J'aime les voix d'hommes, mais dans les voix qui m'ont inspiré et ému, il y a beaucoup de voix de femmes. Ça va de Françoise Hardy à Marianne Faithfull, ça va de Ornella Vanoni à Mina, Billie Holiday à Bessie Smith, Tammy Wynette à Dolly Parton. J'aime beaucoup, beaucoup les voix de femmes et les voix troublantes. Et puis, par exemple, Elis Regina, qui a été une inspiration immense parce que j'ai découvert qu'on pouvait chanter en douceur. C'est difficile parce que, vous savez, on entend la voix du dedans. Donc, on est surpris par sa voix, on est gêné. Vous avez remarqué, quand on entend sa voix, on est gêné, même quand on travaille avec, comme vous et moi. On l'entend si on s'y attend pas, par exemple, on a une surprise. C'est comme quand on voit une photo de soi, on est gêné. Donc, j'ai aucune idée de ce que donne ma voix intime. Et puis, un peu basse, hein. J'ai pas une voix très haute. Ça facilite, hein, quand on est une femme. L'âge aplatit tout, mais... C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a 20 ans, j'avais une voix comme ça, ma vie, je pense, aurait été assez différente. Ça en impose, une voix basse. Ça donne l'air intelligent, par exemple, même si on l'est pas du tout. C'est vrai, hein.
Mais moi, je ne suis pas là, non, 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 non. Je suis chez qui fait Anita. C'est le petit matin. Vous en êtes pas couché, ma foi.
Elle me paraît toujours insuffisante pour chanter ce que je voudrais chanter, mais petit à petit, elle devient comme un petit animal. Oui, c'est ce que vous disiez, un peu domestiqué.
Quelle relation vous avez avec votre voix ?
Je dirais amicale. Je la vois comme un certain visage de mon âme. Je la timbre assez peu, finalement, même si maintenant elle est beaucoup plus timbrée, donc je la fragilise assez peu. Je crois que je l'utilise assez correctement, malgré sa modestie.
Mon Raymond a du talent pour séduire tout genre de clics.
quand il cause, c'est saisissant, les confusions se dissipent.
C'est normal les critiques. Au fond, c'est normal qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ma voix. Et puis, il y en a d'autres qui l'aiment bien. Je préfère tout à l'indifférence. Mes chansons, celles que j'écris moi-même, elles sont assez difficiles à chanter parce que justement, elles ne sont pas très vocales. Donc, par exemple, quelqu'un m'a dit qu'il y a une chanson fameuse que j'ai eu la chance d'écrire parce que plein de gens la connaissent, elle n'est pas très vocale. Donc, c'est difficile de s'élancer. Retenir un petit peu quelque chose avec beaucoup, beaucoup de mots dedans. Donc, oui, elle n'est pas si vocale.
Pourtant, quelqu'un m'a dit. Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors?
Est-ce que vous aimez votre voix?
Écoutez, moi j'y suis attachée, c'est ça l'amour peut-être.
Oh, it's just a perfect day, I'm glad I spend it with you. It is such a perfect day, you just keep me high.
Et du Lou Reed pour refermer ce moment charmant en compagnie de Carla Bruni. C'est donc grâce au directeur musical des spectacles Enfoirés, hein, Guy Delacroix, qu'elle a franchi le pas et s'est assumée comme chanteuse. Puis alors Carla Bruni nous a glissé le nom d'Elis Regina parmi ses voix repères. C'est l'occasion, je vous le conseille, de découvrir ou de réécouter cette sublime voix de la musique brésilienne, star des années 60 et 70.
Et un petit indiscret, Carla Bruni est en train de préparer son nouvel album de chansons inédites qu'on devrait avoir pour le printemps 2019.
Ah, bien. Chouette. Et notre rendez-vous, il y a de la voix, est de retour lui dès demain. Merci Steve. Ouvrons un livre à présent avec vous, Bernard Lehu. Et attention, il ne faut pas se fier au titre de votre coup de cœur du jour, l'affaire Meyerling de Bernard Quirini.
Mais oui, n'y voyez pas un roman historique sur le double suicide de l'archiduc d'Autriche et de sa maîtresse. Meyerling, c'est le nom d'un immeuble de standing dont les résidents vont vivre, mais alors un enfer, sous la plume tout aussi angoissante que burlesque de Bernard Quirini.
Ouais, j'ai voulu en faire, vous savez, il y a une phrase d'Audiard, voilà, je connais des cons, mais vous êtes une synthèse. Le Meyerling, c'est un peu une synthèse. Si vous voulez, j'y ai vraiment condensé tout ce que l'on pouvait trouver de pire dans les malfaçons immobilières et puis aussi tous les problèmes que génère la vie en copropriété, notamment les conflits de voisinage. Et j'ai essayé de porter tout ça à la puissance 1000 en y ajoutant, pour faire bonne mesure, un certain nombre de phénomènes paranormaux, de telle sorte que le tableau soit aussi complet que possible et que la vie des habitants soit l'enfer le plus complet possible.
Et en effet, Meyerling, c'est cauchemar à tous les étages du parking trop étroit aux canalisations qui refluent tout, mais alors tout, je ne vous donne pas les détails, sans oublier les fissures en tout genre et l'isolation sonore défaillante.
Alors on peut imaginer, mais comment réagissent les habitants, Bernard ?
Eh ben, il faut croire que les dérèglements de l'immeuble sont contagieux. Madame Camille, vous savez, par exemple, la veuve, la respectable, eh bien, elle devient nymphomane. Les Lemoine, un couple idéal, se détestent dès qu'ils se retrouvent entre les quatre murs de leur appartement. Et Madame Chopard, ben alors elle croise des fantômes dans toutes ses pièces. Bon. Et puis, vous savez, le charmant gamin des Tuiliers,
oui, le troisième.
Oui, alors lui, il vire au fils psychopathe. Plus inquiétant encore, l'immeuble semble pris d'une vie propre et d'une hostilité grandissante contre ses occupants. Alors, l'heure de la rébellion a sonné.
Et ils vont se liguer pour essayer de faire la peau de leur immeuble, ce qui, je crois, n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'immobilier. C'est la première scène, si vous voulez, qui m'est venue à l'esprit, des habitants qui, méthodiquement, avec sang-froid et avec un certain enthousiasme, décident de mettre tous les moyens qui sont en leur possession pour ravager leur immeuble et le réduire en miettes. Et ils ne s'arrêteront que quand l'immeuble sera définitivement par terre. Quand je me promène dans une ville et que je vois autour de moi cette quantité affolante d'immeubles qui nous bouchent le paysage, je me dis, mais comment se fait-il qu'à aucun moment on ait l'envie collectivement de prendre un marteau, un bulldozer, puis d'aller tout casser? Peut-être que je déraisonne et que ce sont des coups de folie passagers, irrationnels, mais à titre personnel, je vous avoue que ça me traverse quand même assez souvent l'esprit.
Oui, on le comprend. Et vous l'aurez compris, le roman de Bernard Quirini se veut une satire, une charge contre la bétonisation, et l'auteur passe avec agilité du cauchemar au fou rire, le fou rire, l'arme la plus efficace contre tous ceux qui abîment nos villes et nos vies. L'affaire Meyerling est éditée par Rivage.
Ouais, c'est une autre version de Dans mon HLM de Renault. C'est un peu ça, version luxe.
Exactement.
Merci Bernard.
Ne bougez pas, on évoque les coulisses du tournage d'un énorme succès du cinéma. Les Intouchables, ce sera avec Stéphane Boutsock juste après ça.
C'est l'été. Laissez-vous tenter sur RTL.
Avec Anthony Martin.
Et c'est l'heure de nos secrets de producteurs avec vous, Stéphane Boutsock, et aujourd'hui la productrice Sidonie Dumas qui nous embarque dans les coulisses d'un film phénomène, Intouchable.
2011, date dans le cinéma français, deuxième plus gros succès de l'histoire pour un film tricolore, 19,5 millions d'entrées. Une comédie irrésistible, émouvante, la rencontre d'un tétraplégique et de son auxiliaire de vie. L'un est milliardaire, l'autre vient de la banlieue. Dès le début, c'est le choc des cultures.
Autrement, comment vous vivez l'idée d'être un assisté ?
Quoi ?
Bon, je veux dire, ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres ? Ça vous pose pas un petit problème de conscience ?
Ça va, merci, et vous ?
Sinon, on pensait que vous seriez quand même capable de travailler ? C'est-à-dire avec des contraintes, des horaires, des responsabilités ?
Je me suis trompé, en fait, vous en avez de l'humour.
J'en ai tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas deux semaines.
Olivier Nakache et Éric Toledano signent là leur quatrième film. Sidonie Dumas se souvient de la manière dont Gaumont a décroché ce qui allait devenir le gros lot.
Le scénario d'Intouchable tourne un peu chez différentes maisons de production, dont Gaumont. C'est un peu un appel d'offres. Et ils sont déjà aussi des auteurs et des metteurs en scène à succès. Comment est-ce que nous, on va sortir du lot pour leur dire qu'on est les meilleurs pour participer à cette aventure ? Donc sur Intouchable, pour faire la différence, on leur a dit, voilà, on vous accompagne évidemment en tant que distributeur, mais le scénario est là, il n'y a pas grand-chose à changer. Voilà, nous, ce qu'on va pouvoir faire pour faire en sorte de rendre ce projet aussi détonnant que possible.
Et la jupe, elle est où, là ?
Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je l'aimais pas, le sang circule mal. Du coup, je risque de m'évanouir.
Moi, je vais pas vous mettre des bas. Hein. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut...
Vous avez une très jolie petite boucle d'oreille. Moi, je trouve ça très cohérent. Non, j'avais jamais pensé à faire un CAP d'esthéticienne.
Bon, voilà, ça c'est fait. Et ça, les gants, c'est pourquoi, là ?
Bon, ça, on va attendre encore un petit peu.
Formidable le duo entre François Cluzet et Omar Sy. Intouchable, Stéphane, c'est évidemment le rire. Mais sur le fond, le film aborde les questions du handicap, de la dépendance. C'était risqué au départ, non ?
Oui, et une partie du métier met d'ailleurs en garde Sidonie Dumas avant qu'elle ne se lance dans l'aventure.
Moi, je me suis entendu dire, t'es sûr qu'on peut faire rire avec un handicapé ? Je crois que si je me disais ça, je ne ferais pas ce que je fais. Parce qu'en fait, honnêtement, l'aventure des films et produire, c'est prendre des risques. Après, je crois que c'est une force de conviction. Et après aussi, parce que ça tombe pas du ciel, je suis pas oui-oui à la plage et en train de me dire j'aime prendre des risques, donc allez, on y va. Il faut qu'il y ait une équation financière. C'est-à-dire qu'il y a en face du risque à prendre, il y a quelque chose, on se dit à quel public on s'adresse et combien ça coûte, et si tous les paramètres et toutes les croix sont remplies, on se dit, c'est bon, on peut y aller. Mais en revanche, on ne peut pas faire ce métier sans se dire qu'il y a une part de risque et que tout est bordé. Et pour moi, c'est antinomique, en tous les cas.
Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau.
Je trouve très touchant aussi.
Mais ça coûte combien, ça ?
Je crois qu'il est à 30 000 euros. Je peux vérifier, si vous voulez.
Ouais, vaut mieux vérifier, quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix.
Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi un chocolat.
Non.
Donnez-moi un chocolat.
Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein.
Ah, c'est une blague.
Ben oui, c'est une blague.
Ah, c'est une blague.
Elle est bien, quand même.
Très bonne, c'est une très bonne blague.
C'est une vanne connue.
Omar, pour moi, est un soleil. Donc, en fait, c'est quelqu'un d'une générosité, d'une gentillesse, d'une humanité. Donc, je me dis, en fait, François Cluzet et Omar, ça doit pouvoir donner quelque chose. En fait, c'est encore un autre pareil, en fait. Vous pariez sur un duo, sur quelque chose d'inattendu, sur une audace, sur une rencontre, sur, voilà, une mayonnaise qui prend, en fait. On va être au rendez-vous de quelque chose et c'est une proposition. Est-ce qu'elle serait la même aujourd'hui ? Je sais pas. C'est à un moment donné quelque chose qui est dans l'air du temps, qui prend et qui est emporté par le public.
J'ai fait une petite erreur sur le prix.
Ah, voilà.
Oui, il est à 41 500 euros.
Je le prends.
Ah bon ?
Eh oui, ah bon. On l'a dit, hein, tout ça va devenir un carton en France, mais aussi dans le reste du monde, plus de 50 millions d'entrées, 450 Incroyable. Millions de dollars de recettes à l'échelle planétaire, à l'automne 2011, avant la sortie. Chez Gaumont, on se dit que ça sent bon.
Quand on commence à voir les rushs, et quand on commence à voir des bouts de film, tout d'un coup, on se dit, ah, là, il y a quelque chose qui se passe. C'était le cas là. Et en fait, il y a quelque chose quand vous terminez un film, que le film s'arrête et que le mot fin apparaît, vous dites, j'ai encore envie de le voir. Et ça, c'est un indice en général. Ça ne veut pas dire que c'est un indice à 20 millions, mais il y a quelque chose qui se passe.
Putain, elle vient de Dunkerque, c'est pas bon ça.
Reposez cette enveloppe.
J'ai jamais vu de Miss France qui venait de Dunkerque, moi.
Allez, reposez ça, s'il vous plaît.
Mais qu'est-ce que vous voulez, Philippe ? Elle a mis son numéro de téléphone à la main, ça veut dire quoi ? Appelle-moi, je vais te lécher l'oreille.
Il est malade, ce mec.
Je vous dis.
Je m'en fous, je parlerai pas.
Vas-y, vérifie si elle a pas un accent bizarre. Dunkerque, c'est les ch'tis.
Je me souviens d'aller dans différentes salles à Paris le premier week-end, le soir, le jour où en fait il n'y a même plus de place pour s'asseoir, même sur les marches en fait. Les gens rentrent pour aller voir d'autres films, arrivent à rentrer par les portes de sortie de secours pour s'installer dans la salle d'intouchable. Il y a un truc exceptionnel qui se passe. C'est-à-dire que c'est une émotion de partage qui est tellement forte, qui est inouïe.
Allô ?
Oui, Léonore, c'est Philippe.
Philippe ?
Voilà, j'étais en train de vous écrire une lettre et puis d'un seul coup, comme ça, je me suis dit, mais pourquoi pas lui téléphoner ?
N'oubliez pas de demander pour le poids.
Pardon ?
Non, rien.
Et comme dans chacun des films du tandem Nakache-Toledano, qui tourne d'ailleurs cet automne son nouveau long-métrage dans l'univers de l'autisme avec Vincent Cassel et Reda Kateb, ça promet donc dans chacun des films, la BO est particulièrement soignée. Dans Intouchables, évidemment, on retrouve entre autres ce tube d'Earth, Wind & Fire.
La chorégraphie hein, d'Omar Sy, toujours avec.
Toujours.
On l'a toujours en tête. Omar Sy qui avait reçu le César du meilleur acteur en 2012 pour ce film Intouchable que vous pouvez revoir cet été en DVD chez Gaumont. Merci Stéphane. Place à notre pépite du jour, un des moments de ces 10 derniers mois passés ensemble dans Laissez-vous tenter.
Hi, I'm Marlon Jackson.
I'm Tito Jackson.
And I'm Jackie Jackson.
And you're hanging out with the Jacksons on RTL.
C'est la classe, non ? Le 9 octobre, Marlon, Tito et Jackie Jackson sur RTL, les frères de Michael, les fils de Joe Jackson décédé en juin dernier, nous racontaient à votre micro, Steven, l'épopée des Jackson 5.
On a fait de la musique parce qu'on aimait ça, on prenait vraiment notre pied sur une scène. Et on n'a pas du tout réalisé que notre musique atteignait les quatre coins du globe, on n'a rien compris. Il faut dire qu'on travaillait tellement, tous les jours. Vraiment. On a même enregistré un album de Noël en plein été. Oh mon Dieu, on n'avait jamais de pause. On voyait notre manager partir en vacances et nous, on restait bosser tout le temps. C'était du travail, mais aussi du plaisir, car c'était vraiment ce qu'on désirait. Et pour avoir du succès, il faut travailler dur. Le truc, c'est qu'on était très jeunes et on voulait devenir des stars. On rêvait d'être James Brown ou les Temptations. On voulait divertir. On l'aurait même fait gratuitement.
Les confidences des frères Jackson sur RTL. Et je signale pour les fans de la saga Jackson et particulièrement des Jackson 5 que leur beau livre rempli de documents et de souvenirs s'appelle Notre Histoire. Il est paru cette saison aux éditions EPA. Allez, musique pour finir, comme chaque jour. De 5, on passe à 2 là. Hein. Notre jukebox est rempli de duos. Voici le duo du jour. Bon temps du rock'n'roll par, évidemment,
Sylvie Vartan et
Johnny. Et Sylvie, une version studio qu'on trouve dans l'album Irrésistiblement Sylvie, sorti en 99. Johnny qui nous a quittés il y a maintenant 8 mois. À demain.
À demain, toute l'équipe de Laissez-vous tenter autour d'Anthony Martin.